Merci Maïlys, à lundi pour un nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre série intitulée Proust, premier mouvement. Une émission qui vous est proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Chloé Casmarek, Coppelia Menardi et David Jacubovies avec derrière la console Élise Leum. Marcel Proust, dont la vie se résume bien souvent à quelques images, celle d'un homme un peu maladif, reclus dans sa chambre au mur couvert de liège, et même précisément dans son lit. L'écrivain des salons et des comtesses, l'écrivain du souvenir aussi, du thé et de la madeleine, autant d'instantanés qui, s'ils sont exacts, constituent davantage un point de départ qu'un point d'arrivée quand il s'agit d'évoquer sa biographie, comme l'a fait pour nous Jean-Yves Tadier, c'était lundi, dans une émission à réécouter en podcast. Mardi, nous avons égrené quelques-uns des mots-clés choisis par Michel Hermant dans son livre paru au PUF, « Les 100 mots de Proust », avant de parler du médecin qui était presque devenu l'auteur de la recherche à force d'en fréquenter des médecins et de ne pas les trouver très bons. C'est le pneumologue François-Bernard Michel qui nous a expliqué tout cela. Enfin mercredi, à Charles Stout, si l'on peut dire, nous avons passé une heure entière en compagnie de ce personnage central, ce monstre sublime qui confondait l'art et la vie. C'était grâce à Philippe Berthier, auteur du livre Charles, aux éditions de Fallois. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, après la chronique de Frédéric Magé, je recevrai Pierre-Yves Leprince, qui a vécu pendant de nombreuses années comme habité par l'auteur de la recherche, ce qui l'a conduit à écrire ses enquêtes de Monsieur Proust, publiées aux éditions Gallimard. Mais pour commencer, nous sommes avec Michel Schneider, auteur de Maman, Proust et sa mère, toujours chez Gallimard dans la collection L'un et l'autre, c'était en 1999, ainsi que plus récemment, en 2014, de L'auteur, l'autre, Proust et son double, chez le même éditeur, sans oublier ces jours-ci un recueil d'articles sur la littérature intitulé « Écrit dans le noir », c'est cette fois chez Buchet-Chastel. Bienvenue, voici la compagnie des auteurs.
Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé, illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence, et par la puissance, la lucidité de son esprit, tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues.
Bonjour Michel Schneider.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Marguerite Duras, pour qui la lecture de Proust pourrait suffire à faire d'un lecteur un écrivain. Qu'en pensez-vous ?
Je ne crois pas. Non, je pense que, comme dit Proust lui-même dans une journée de lecture, le lecteur est toujours le lecteur de lui-même. Ça, effectivement, lire Proust, c'est se lire soi-même. De là à écrire, il y a un saut qu'on ne fait pas par un glissement progressif de la lecture à l'écriture. Je ne crois pas que Proust... Enfin, les exemples de gens qui ont voulu s'inspirer de Proust et surtout faire du Proust sans Proust ou après Proust, c'est calamiteux.
Il faut... mais vous comprenez ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire la spécificité de l'œuvre proustienne qui, du coup, par sa force littéraire, pourrait simplement infuser et permettre à quelqu'un de, d'écrire ensuite.
Proust, effectivement, donne à penser chaque vie pour chacun de nous. entre penser sa vie et retrouver, je ne sais pas, par exemple, dans La Prisonnière, les pages sur la jalousie que nous avons tous rencontrées à un moment ou à un autre, et se dire, bah, ça je l'ai vécu, et comment a-t-il pu savoir ce que j'ai pensé, j'ai éprouvé à ce moment-là? Oui, bien sûr, c'est une expérience, la lecture de Proust, c'est pas une simple lecture, c'est pas un divertissement, ça nous ramène à nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes.
Alors vous l'avez beaucoup fréquenté, Proust?
Pas personnellement, si j'ose dire. Non, j'ai lu Proust 3 fois dans ma vie intégralement, à 20 ans, à 40 ans et à 60 ans. Depuis, je lis des morceaux, des blocs.
Qu'est-ce qui vous a donné le besoin à chaque fois d'y aller ou d'y revenir?
Pardonnez-moi de me citer, mais en 1985, j'ai publié un livre qui s'appelle « Voleur de mots ». Et ce livre commence par la scène qui commence la recherche, à savoir Proust dans son lit, qui ne sait plus où il est, et de où il est, il passe à la question de qui il est. Et j'ai pris cette page comme point de départ d'un livre qui parlait du plagiat, du pastiche, du palimpseste, de la question, au fond, qui est la vôtre aujourd'hui, qui écrit? Qui écrit ce qu'on écrit?
Et on va en parler, oui.
Voilà. Donc, c'était déjà la réflexion de Proust, et peut-être d'une certaine façon de toute la littérature. Je ne sais pas s'il y a une littérature qui ne s'interroge sur qui écrit, et un auteur qui ne se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'écrire et qu'est-ce que c'est que vivre.
Alors cette question, vous la reprenez dans L'auteur, l'autre, Proust et son double. Mais avant cela, je voudrais parler d'un autre livre de vous qui est le dernier à paraître. C'est ce recueil d'articles écrits dans le noir chez Buchet-Chastel. Vous n'y parlez pas directement de Proust, mais Proust est là comme un peu en filigrane.
Ah, bah je parle, il y a tout un chapitre sur Colette et Proust.
Alors voilà, parlons de Colette et Proust.
Il y a un chapitre sur Colette et Proust. C'est-à-dire que je vois Proust à travers les portraits qu'on donne Colette à différentes époques de sa vie. Portraits très sarcastiques, hein, au début où elle se moque de lui dans les scènes chez Madame Armand Caillavet. Et peu à peu, elle s'attache à l'image physique du personnage et elle donne des portraits qui sont absolument magnifiques. On voit Proust comme un espèce de revenant au Ritz pendant la guerre, puis dans ses dernières années. Et Colette a laissé les plus beaux portraits de Proust qui soient, bien que tous les opposent, je veux dire, en termes d'écriture, de forme de narration, de rapport aux choses, aux objets. La sensualité de Proust n'est pas du tout celle de Colette.
Vous dites des textes de Colette sur Proust qu'il baigne dans une lueur bleue glacée.
Oui, elle insiste beaucoup sur ce côté personnage qui revient dans la nuit. Elle le voit généralement d'ailleurs la nuit au Ritz, pendant la guerre, c'est pendant les bombardements, avec ces lueurs comme ça d'annonce de la mort. Hein. Il y a quelque chose de... Elle lit sur son visage progressivement, son visage mangé par le temps finalement et par l'œuvre. Elle lit les traits de la fin de Proust avec une clairvoyance, un regard qui est d'une acuité intense.
Alors ces deux monstres sacrés, pour reprendre une expression peut-être un peu galvaudée, de la littérature française sont contemporains. 1871, c'est la naissance de Proust. 1873, c'est la naissance de Colette. Ça les rapproche. Ce qui ne les rapproche pas, ce qui les sépare peut-être, c'est l'origine sociale.
C'est l'origine sociale, c'est leur mère. L'un et l'autre sont très attachés à la figure maternelle. Mais chez Colette, la figure maternelle est quelque chose de très terrien, de très lié aux plantes, aux fleurs, etc. Ce qui n'est pas exactement la mère de Proust, Anne Veil, qui était une intellectuelle, une pianiste, une lectrice. Et avec sa mère, Proust n'échangeait pas sur la botanique, il échangeait plutôt sur Racine et le théâtre classique. Mmh. Donc ces milieux-là créent des différences, et puis leur rapproche de la sexualité qui est aussi très très opposé.
Qui a pu causer des brouilles d'ailleurs.
Qui a pu causer des brouilles, puisque Colette reproche à Proust, au fond, une vision de ce que Proust appelle l'inversion. Après lui avoir dit qu'il représentait l'homosexualité avec une grande véracité, elle s'insurge en disant non, alors là, quand il parle du lesbianisme, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le lesbianisme ?
D'après la Colette, il n'a pas compris la violence qu'il pouvait avoir dans les rapports, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels, la violence du sexe, intrinsèquement, la violence des sentiments et la violence des jalousies.
Donc il a une vision idéalisée de l'amour entre les femmes.
Oui.
Est-ce qu'ils se sont beaucoup côtoyés tout de même ?
Proust côtoyait beaucoup de gens par lettres, si j'ose dire, et il y a pas mal de lettres où et puis ils s'échangeaient leurs livres, ils s'envoyaient des dédicaces comme on faisait à l'époque de 12 lignes avec la géniale auteure de Mitsou, et elle répondait que effectivement le deuxième volume de la recherche l'avait transporté. Il y avait une estime réciproque d'écrivain à écrivain.
Et vous, votre estime, elle va finalement également aux deux ?
J'ai cette formule qui va me valoir des ennemis chez les Proustiens. Je dis que Proust est incontestablement un très grand écrivain, peut-être le plus grand écrivain du siècle passé, mais que Colette écrit mieux. Je veux dire qu'il y a une force de la phrase, de la syntaxe, hein, quelque chose qui se noue comme ça dans la chair de la phrase, qui est plus fort chez Colette que dans la phrase proustienne. Je ne m'ennuie jamais en lisant Colette. Je m'ennuie souvent en lisant certaines pages sur la mondanité proustienne.
Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Marcel Proust, on parlait aussi de Colette à l'instant. J'ai l'intuition que Frédéric Magey reviendra sur Colette dans la chronique de tout à l'heure, Colette dont il est spécialiste. Alors, Michel Schneider, parlons à présent de l'auteur, l'autre, Proust et son double. C'est une étude, mais c'est presque un roman finalement.
Oui, enfin, c'est un roman, ça contient une histoire qui est effectivement très romanesque, à laquelle j'ai eu accès par des sources familiales. En 1920, donc 2 ans avant sa mort, Proust a l'idée d'écrire lui-même la critique de son, de l'esthétique, ce qu'il appelle l'esthétique de son roman.
Au passage, qu'est-ce que ça dit de Proust, ça?
Ah ben c'est un quelque chose. D'abord, ça dit qu'il avait se méfiait de toute la critique de Paul Soudet, ou enfin tous les gens. À chaque fois, il rectifiait, il envoyait des
lui-même
lettres.
Lui-même était critique aussi.
Lui-même était critique. Non, mais il n'hésitait pas à critiquer les critiques de façon très féroce, et donc il a préféré se rendre justice à lui-même. Et le plus étonnant dans ce texte, c'est qu'il est un assez mauvais critique de lui-même, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs au fond, parce que est-ce qu'on est le meilleur juge de ce qu'on a voulu faire? Peut-être que certains lecteurs, par exemple Jacques Rivière, a certainement eu une vision plus juste à l'époque de ce que était la démarche de Proust.
Ah oui, donc vous pensez qu'il n'a pas totalement la conscience de ce qu'il produit.
Si, il a une très grande conscience de l'importance de sa révolution littéraire. Hein, ce qu'il donne comme argument pour passer à la postérité, c'est un peu faible. Il dit voilà, l'œuvre de... Parce que finalement, le texte que Proust voulait écrire, il l'a fait signer par un jeune homme qu'il a rencontré à ce moment-là, à qui il a confié son manuscrit, et ce jeune homme étant mort, il a été ensuite repris par un autre jeune homme, et il a été publié dans la NRF, dans la NRF, Jacques Rivière n'a pas voulu publier ce texte en disant « mais c'est stupidité qu'on écrit sur Proust ».
Alors on peut reprendre peut-être l'histoire du coup dans l'ordre, c'est-à-dire qu'un jour il reçoit une lettre de cet Albert Thiébaud Cisson, donc qui est un jeune
admirateur comme il y en avait au début du siècle dans le sillage des écrivains, oui.
Voilà, Proust vient d'avoir le prix Goncourt. Ce garçon est le fils d'un journaliste.
Oui.
Donc ce sont des hommes de lettres. Et il demande un entretien à Proust.
il demande un entretien à Proust, et Proust le tient un peu à distance, et puis peu à peu trouve le garçon sympathique, amusant, noue une relation avec lui plus proche, épistolaire, refuse évidemment de le rencontrer.
Pourquoi évidemment ?
Parce que Proust ne rencontrait pas physiquement et en chair et en os les gens auxquels il s'attachait. Il avait besoin de l'écran des lettres pour nouer des relations en se protégeant. Oui. Il avait aussi à protéger son œuvre. Hein. Il est quand même en phase de l'achèvement. À ce moment-là.
Donc il lui dit, vous habitez Versailles, alors si vous voulez venir, pour moi c'est 11h du soir, alors pour vous c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de moyen de transport.
Il souhaite que ce soit pas possible, quoi. On sent qu'il y a une espèce d'évitement. Bon. Et puis, au bout d'un moment, il dit non, finalement je vais pas publier ce texte sous mon nom, est-ce que vous voulez bien le signer ? Le jeune homme accepte avec enthousiasme, et puis il se trouve qu'il meurt quelques semaines après, et laisse ce manuscrit à un autre jeune homme de ses condisciples de Versailles, qui va ensuite garder ce texte et qui se trouve être dans une branche de ma famille. Ce texte n'avait été jamais.
Alors pourquoi est-ce qu'il le garde, ce texte, finalement, pendant tant d'années ? Parce que quand même, on se rend compte, j'imagine, quand on a un manuscrit, c'est de la main en plus de Marcel
Proust.
Non,
il y a deux mentions de la main et il y a le reste est dactylographié. Alors ce qui est très étonnant, c'est que quand j'ai publié ces lettres, cet échange de lettres, où il y a donc un long texte d'une quinzaine de pages qui s'appelle L'esthétique de Marcel Proust, qui est de Marcel Proust, les gens m'ont dit, les Proustiens éminents m'ont dit non, c'est un faux, c'est un pastiche, Schneider a inventé ces textes, etc. Et j'ai dû donner à Gallimard, mon éditeur, et donc Tadier a authentifié les choses, les copies des manuscrits, enfin des tapuscrits, pour authentifier que c'était bien effectivement, si ce n'est, qu'il y avait la main de Proust du début à la fin. On le sent d'ailleurs dans les formules qu'on retrouve ailleurs. Donc c'est assez amusant de voir pour la question de qui a écrit ce manuscrit. Est-ce que c'est Proust s'écrivant lui-même, mais n'arrivant pas à prendre un pseudonyme, le confie à un jeune homme qu'il charge de cette tâche, le jeune homme meurt. Enfin, il y a quelque chose entre le manuscrit qui finalement disparaît pendant 70 ans et le destin. Il y a quelque chose de très romanesque dans cette histoire.
Mmh. Enfin, en tout cas, dans votre famille, on n'a pas eu l'envie plutôt de faire publier ce texte.
Ils sont avisés que ça avait une valeur marchande certaine au moment où ils ont, parce qu'il y a d'autres lettres dans le même dossier qui sont des lettres manuscrites de Proust. Et bon, aujourd'hui, une lettre de Proust, ça vaut quelque chose. C'est à ce moment-là, ils ont dit que bon, il fallait le publier. Et alors, ils m'ont demandé de le publier. Moi, j'ai voulu le situer évidemment dans l'ensemble de cette question qui écrit la recherche.
Alors, parce que justement, du coup, c'est quand même intéressant d'avoir l'analyse par l'auteur de son œuvre, et ça tourne autour de cette question de qui écrit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que dit Proust dans ce texte ?
Proust, il dit une chose qu'il dit d'ailleurs ailleurs dans des réponses à des critiques ou dans des lettres. Il dit ce qu'il dit dans le Contre Sainte-Beuve, le jeu n'est pas moi, et ce n'est pas parce que j'emploie le je, pronom personnel de la première personne, que je fais du subjectif. Il dit, il tient beaucoup à rectifier, je suis quelqu'un de... J'ai un objectif au sens photographique du terme, l'image de la photographie, du télescope, du microscope sont tout le temps utilisés par Proust. Donc il dit, mon roman est un roman objectif, c'est pas une autobiographie. Quand on lui parle de ses mémoires, etc., il entre en rage épistolaire contre ceux qui ne comprennent pas le sens de son œuvre. La recherche n'est pas une autobiographie de Marcel Proust, et il prend soin de dire « je n'ai pas moi ». Et alors, c'est là-dessus qu'on peut discuter, parce que effectivement, qui écrit, c'est toujours l'autre. Et d'ailleurs, dans mon titre, l'auteur, l'autre, on remarquera que d'un mot à l'autre, il y a une lettre d'écart. Et d'ailleurs, de même en anglais, entre author et other, il y a une assonance très frappante. Donc l'auteur, c'est toujours l'autre. Celui sur qui, alors est-ce qu'on dit sur, on écrit sur quelqu'un, on écrit de quelqu'un, bon, Marguerite Duras nous renseignerait là-dessus. Est-ce qu'on écrit quelqu'un directement, comme pensent les gens qui font de l'autofiction? Qui est écrit dans la recherche? Alors là aussi, on peut dire c'est évidemment l'autre. Hein, c'est pas le petit Marcel. Mais il y a quand même quelque chose de Proust dans le narrateur.
Oui. Notamment quand il est fait référence à des textes que Proust, l'auteur, a écrit et qu'il attribue au narrateur. Alors, il y a la question de qui écrit, il y a aussi la question de pour qui on écrit. Est-ce qu'on écrit pour soi ou est-ce qu'on écrit pour le lecteur, Michel Schneider?
Alors là, Proust est toujours très clair. Il écrit pour l'autre. Hein. Il écrit pour être lu. À la fin du temps retrouvé, il dit ce sera long à écrire, hein, une œuvre pour longue et pour plusieurs. Hein. Il vise la longue durée, la postérité, les pages sur la mort de Bergotte avec les livres comme des anges aux ailes éployées dans les vitrines des librairies. Il écrit pour la postérité, c'est-à-dire pour un public imaginaire nombreux et à qui ça va,
Donc il vit pour le futur, un futur où il ne sera plus sur Terre.
Bien sûr.
J'ai connu Marcel Proust lorsqu'il était un inconnu. Et nous le traitions toujours comme s'il était célèbre. C'était une habitude prise. Lucien Daudet m'avait mené dans cette chambre du boulevard Haussmann où il vivait couché dans un nuage de poudre anti-asthmatique. On n'ouvrait jamais les fenêtres. La poussière recouvrait les meubles comme une fourrure de petit gris. Proust écrivait dans son lit, ganté, environné de plaques de liège. Il était dans une guérite de plaques de liège. Sa barbe et sa frange de mèche noire le faisaient ressembler au Carnot-Mort du musée Grévin, à quelques Capitaine Nemo de Jules Verne. Son œuvre s'accumulait à sa gauche, sur la table de nuit, sous forme d'une pile de cahiers d'écoliers. Parmi les fioles, ces cahiers d'écoliers, illisibles, il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires, il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire dont il se barbouillait la figure avec sa main.
La Compagnie des auteurs sur France Culture et Jean Cocteau qui racontait ses visites à Marcel Proust dans sa chambre alors qu'il était sur son lit. Est-ce que c'est important, Michel Schneider, de savoir que Proust écrivait et vivait en grande partie sur son lit?
Ah ben, c'est le début de Combray, hein, c'est donc ces pages sur longtemps je me suis couché, etc. Bon, tout le début, c'est qu'est-ce qui se passe dans un lit? Dans un lit, on dort, on a des relations sexuelles, assez souvent, on meurt dans un lit. Donc, pour lui, c'est le lieu même du rêve, c'est le lieu même de la fuite du temps, c'est le lieu même de la création. C'est pas un symptôme, je sais pas quoi, de paresse physique ou de fatigue. C'est quelque chose. Je pense que dans le lit, il retrouve les émotions de l'enfant, l'absence des autres, la douleur de perdre l'amour, et que tout ça revient beaucoup plus fort que s'il était à une table de travail ou debout comme certains écrivains devant leur pupitre.
Mmh. Et c'est aussi dans son lit que sa mère venait l'embrasser le soir. Et je dis ça à l'auteur d'un livre sur Proust et sa mère. On peut en dire un mot peut-être, même si c'est un livre qui est un petit peu plus ancien aujourd'hui?
La scène fondatrice... Moi, je dis dans ce livre, bon, Proust a écrit... pour sa mère et contre sa mère. Il a commencé à écrire vraiment autre chose que des pages élégantes dans des revues. Il a commencé à écrire à la mort de sa mère, hein. Comme Joyce d'ailleurs, comme beaucoup d'écrivains. Il y a un côté matricide quand même dans la recherche, même si déguisé en grand-mère, il y a tout l'amour maternel. Et cette longue lettre à la mère, c'est la réponse à cet appel que Proust lui lançait tout petit à travers la nuit, y compris en écrivant un billet. Il y a cette scène où il écrit à sa mère et il demande à la servante qu'est-ce qu'elle a dit. Et la servante dit, la réponse est qu'il n'y a pas de réponse. Et je pense que s'il y avait eu une réponse maternelle, si la mère était venue lui donner le baiser calmant, il n'y aurait peut-être pas d'œuvre. C'est dans cette distance, dans cette perte, dans ce renoncement à la fusion maternelle qu'il a trouvé la force ensuite d'écrire. On écrit toujours à l'absent. Hein.
Oui. On écrit et qu'est-ce qu'elle
quand
dit,
les gens sont présents.
Cette grande lettre qu'elle... message envoie-t-elle à sa mère?
Que le premier mot c'est longtemps, le dernier mot c'est dans le temps, et c'est comme une musique dont dès les premières mesures on sait la tonalité, mais la tonalité ne sera conclue, si on peut dire, qu'aux dernières pages. Et on sait que Proust a écrit Le Temps Retrouvé, enfin des larges parties du Temps Retrouvé, avant même d'écrire d'autres parties. Il a commencé par la fin. Comme beaucoup de compositeurs d'ailleurs qui ont en tête donc cette musique qui se développe tout au long de la recherche, c'est une forme classique en musique. En tout cas, dans la lettre il y a tout. Dans la lettre il y a effectivement beaucoup de rire, comme dit Cocteau. Il y a beaucoup de rire. C'est Jean-François Revel qui avait insisté là-dessus. Proust est un auteur comique merveilleux. C'est un auteur social merveilleux. Les pages sur la guerre de 14, si vous voulez lire comment vivaient les gens dans l'aristocratie ou dans la bourgeoisie parisienne pendant la guerre de 14, vous lisez Proust, plus que les sociologues ou les historiens. Mmh.
Alors, puisqu'on est dans la chambre de Proust, et comme le disait Cocteau tout à l'heure, il faut imaginer ce grand nuage de poudre anti-asthmatique, qui est sûrement d'ailleurs très très mauvais pour ses poumons.
Pour ses poumons, ouais.
Il avait une obsession, bon, c'est un obsessif sans doute, Marcel Proust, il avait cette obsession des microbes et des bacilles.
Non mais tout ça c'est des écrans, des écrans de fumée comme on dit. Ce qui me frappe dans le récit de Cocteau, c'est les gants. Écrire ganté. Alors, je sais bien que écrire c'est une sale affaire. Hein. C'est pas les écrivains qui vous disent je suis à ma table d'écriture, on a presque de rituel très établi.
Vous écrivez ganté, vous, pour pas
j'écris
vous salir
pas ganté, non. Mais vous savez, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est James Joyce à qui un jeune homme un jour vient dire j'aimerais serrer la main qui a écrit Ulysse. Et Joyce lui dit vous savez cette main elle a fait aussi beaucoup de choses sales. Donc c'est vrai que l'écriture d'une certaine façon est une chose sale. D'ailleurs Proust lui-même dit quand il parle de couilles, il parle de couilles. Hein, il met pas de guillemets. Il y a quelque chose de très dur, de très cru dans son approche du langage. Mais ces écrans, pourquoi ces écrans? Pourquoi c'est...
Alors pourquoi?
Parce que il y a un Noli Me Tangere dans son repli, dans sa chambre. C'est vraiment les autres, je ne peux les toucher que par écrit. La vraie vie, comme il le dit à la fin du Temps Retrouvé, la vraie vie, la vie vraiment vécue, c'est celle qu'on écrit. Il ne vivait pas sa vie, sauf pour de brefs moments, en chair et en os, y compris sa relation amoureuse, qui était quand même très, très sublimée dans l'amitié, et pas dans le sexe.
Pour terminer sur les gants et les microbes, il y a quand même un lien entre les deux, puisque il s'agissait, quand il recevait des lettres de l'extérieur, il en recevait beaucoup, puisqu'il en écrivait plus encore.
Il devait passer au décontaminant, oui.
Oui, c'est ça. Donc il avait une machine.
Oui, Céleste, elle devait passer les lettres, une espèce de bain de vapeur ultra chaude pour décontaminer les...
Oui, ou dans le formal aussi.
Oui. Non, mais c'est cette idée que l'autre est à la fois source d'une contamination, c'est pas entièrement faux, hein. C'est un peu paranoïaque, mais c'est... Quand Proust dit dans une lettre à Emmanuel Berle, il dit « je ne suis moi que seul ». Ce qui est effrayant de dire ça, « je ne suis moi que seul », parce qu'on est, soit en... avec les autres, parmi les autres, dans l'échange qu'on a avec eux. Alors, ce qu'il veut dire là, c'est que le moi qui écrit, lui, doit être, comme dit les livres, sont les enfants de la solitude et du silence. Mais cette solitude, elle est dédiée à l'œuvre.
Merci beaucoup, Michel Schneider. Je rappelle que votre dernier recueil de textes s'appelle « Écrit dans le noir » et qu'il est disponible chez Buchet-Chastel. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Pierre-Yves Leprince pour parler de ses enquêtes de Monsieur Proust. Mais tout de suite, c'est le moment de la chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Car tous les jeudis, nous proposons à un grand lecteur de venir donner son sentiment sur un écrivain dont il n'est pas directement spécialiste, Proust aujourd'hui en l'occurrence. Nous avons le plaisir de vous accueillir, Frédéric Magé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la maison de Colette. Que pourriez-vous rajouter pour commencer sur ce qu'on a dit aujourd'hui, ce qu'on a commencé de dire avec Michel Schneider au sujet de Proust?
Oh, pas grand-chose. Je suis plutôt impressionné d'ailleurs. Tout a été dit ou presque sur Marcel Proust. J'ai le sentiment que parfois, autour de l'œuvre cathédrale qui est La recherche du temps perdu, il y a comme une cité qui s'est construite par les exégètes.
Une citadelle.
Une citadelle avec ses impasses, ses ruelles, ses avenues, ses remparts. C'est devenu très impressionnant, la recherche. Et parfois, il m'arrive d'essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être une rencontre innocente, si jamais il y a des rencontres innocentes. Par exemple, en 1922, on se serait... Le deuxième volume de Sodome et Gomorrhe serait sorti en librairie, on se retrouverait sur une table et on achèterait l'ouvrage. En 1922, au début d'année, il y a Ulysse de James Joyce qui a été publié, le premier volume des Thibaud de Roger Martin Dugard. On ne parle que de La Garçonne de Victor Marguerite qui fait scandale. Colette publie La Maison de Claudine et on s'arrête sur Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'on aurait ressenti à ce moment-là?
C'est une belle table.
Voilà, mais c'est une très belle table, effectivement. Et j'en trouve un écho, effectivement, dans ce que Colette écrit à Marcel Proust. Colette qu'on ne peut pas accuser de présupposés idéologiques, en tout cas, et pas tellement de flatterie, en tout cas beaucoup moins que Marcel Proust. Et je me suis arrêté sur cet extrait d'une lettre qu'elle lui écrit à propos de Sodome et Gomorrhe. « Personne au monde n'a écrit des pages comme celle-là sur l'inverti. Personne. Je jure que personne après vous, autre que vous, ne pourra rien ajouter à ce que vous avez écrit. Qui oserait toucher, après vous, à l'éveil lépidoptérien végétal, ornithologique, d'un jupien à l'approche d'un charlus. » C'est extraordinaire et ça dit en même temps tout l'enthousiasme que suscite chez le lecteur la lecture de Proust. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner par la citadelle qui est autour et se laisser justement emporter par l'enthousiasme qui prend toujours le lecteur à la lecture de Proust.
Il ne faut jamais se laisser impressionner par les citadelles. Alors il y a un personnage qui vous intéresse aussi dans la galaxie proustienne, c'est Anna de Noailles, Frédéric Magé.
Oui, parce que effectivement, j'aurais pu mettre en écho Colette à Marcel Proust. Il y a bien des parallèles, des divergences et des convergences.
On
en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai tout de suite pensé à une lumière un peu plus crépusculaire, qui est celle d'Anna Noailles, qui fut elle aussi une amie proche de Marcel Proust. C'était une contemporaine. Elle était née en 1876, donc. Proust est 71, Colette en 73. Beaucoup de ses contemporains l'avaient surnommée la princesse assyrienne, peut-être en raison de ses origines mosaïquées. Il faut dire que sa mère était grecque, née à Constantinople, elle avait grandi à Londres. Son père appartenait à une grande famille roumaine, les Brancovan. Et pourtant, elle s'est toujours, elle aimait à le répéter, vue comme née à Paris. Et toute sa littérature a été ancrée dans une tradition très française, celle de Fénelon, de Chateaubriand, d'Hugo, de Lamartine. On a peine à imaginer aujourd'hui l'enthousiasme qu'a suscité la poésie d'Anna Noailles, qui était de son vivant une gloire, véritablement.
Ouais, et qui se relie aujourd'hui bien.
Oui, très sincèrement, il y a un charme qui est resté intact dans la poésie d'Anna Noailles. ces jardins, cette nature luxuriante, envoûtante, traversée par l'angoisse de la mort. Un recueil comme L'honneur de souffrir, un des derniers qu'elle a écrit, est magnifique, mais il faut relire Exactitude, il faut relire ses romans aussi. C'est une œuvre qui est toujours ardente, il y a un feu sombre qui couve toujours sous les cendres de la poésie d'Anna Noailles.
Et puis, nous demandons toujours le jeudi une actualité à nos chroniqueurs. Vous avez repéré une actualité qui est en rapport avec Proust, comme c'est bien fait.
Oui, c'est une jeunesse de Marcel Proust, d'Evelyne Bogdano. Moi, j'aime beaucoup l'œuvre d'Evelyne Bogdano, chez Stock, oui. Chaque ouvrage d'Evelyne Bogdano est un peu un exercice d'admiration. Il y a quelque chose qui est très perceptible dans son œuvre. C'est l'émerveillement qu'elle a devant la chose littéraire et un émerveillement, qu'elle arrive à faire partager véritablement à son lecteur. Alors elle s'intéresse à un sujet qu'on pourrait dire galvaudé, le célèbre questionnaire de Marcel Proust. Et l'angle qu'elle choisit est intéressant, c'est qu'elle rappelle que ce questionnaire est pris dans un album, Confessions, en anglais.
Donc c'est en anglais qu'il a... Les questions étaient en anglais,
les réponses en français. Et il y avait d'autres réponses, évidemment, à ce questionnaire. Et elle s'est demandé, mais tiens, quelles ont été les autres réponses? Quels étaient ces jeunes gens? Quel lien ils avaient avec Marcel Proust? Est-ce que finalement les réponses du jeune Proust étaient aussi originales que cela? En quoi apparaissait-elle prémonitoire? Et elle arrive à faire revivre toute une vie, toute une sociabilité, toute une jeunesse de Marcel Proust, comme le dit... En menant vraiment une enquête, parce qu'il y a ça aussi chez Evelyne Bogdano, c'est il y a un côté Miss Marple. Elle mène l'enquête, effectivement, comme l'a fait d'ailleurs Pierre-Yves Le Prince, il en reparlera. Elle s'est rendue sur les lieux, notamment au Havre. Elle a traversé les rues, elle est allée voir le cadastre, qu'est-ce qui avait changé.
Elle a retrouvé le questionnaire original.
Voilà. Et puis, elle a cherché à faire redécouvrir tous ces décors, à faire revivre ces personnages. Je pense évidemment à Antoinette Faure, hein, la fille du président, puisque c'était son album. Et il émerge peu à peu, au fil des pages, un Proust à hauteur d'homme qui, moi, me plaît beaucoup. Alors, évidemment, probablement que les Proustiens diront qu'on n'apprend pas grand-chose, que tout cela a été su, mais je crois que le grand mérite de ce livre, c'est de donner envie de relire Marcel Proust.
Merci beaucoup Frédéric Magé, directeur de la Maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé, qui est ouverte au public...
Tout l'hiver. Voilà, du mercredi au dimanche, et à partir de novembre, du vendredi au dimanche.
Alors, n'hésitez pas. Suite et fin de notre série consacrée à Marcel Proust dans la compagnie des auteurs. En cette seconde partie, je reçois Pierre-Yves Le Prince, peintre et scénographe, auteur chez Gallimard des enquêtes de Proust et des nouvelles enquêtes de Proust. Mais avant de le saluer, un détour du côté de Roland Barthes.
Proust donne une leçon extraordinaire. Il apprend d'abord qu'on ne peut pas écrire sans accepter une ascèse totale de la vie, même de la vie quotidienne. Il faut renoncer à la frivolité, ce que Proust appelle la frivolité, c'est-à-dire à la mondanité. Il faut s'enfermer, c'est un acte total, et la frivolité ne deviendra plus qu'une sorte de réalité rêvée qui sera le sujet du livre, mais l'auteur lui-même ne vivra plus dans la frivolité. Autrement dit, la première leçon de Proust, c'est pour les écrivains de poser une sorte d'alternative radicale et je dirais presque chirurgicale entre écrire d'une part et tout le reste d'autre part. La seconde leçon, si vous voulez, à mon sens, c'est que pour Proust, la seule raison d'écrire, c'est le bonheur. La décision d'écrire de Proust, c'est une décision qui correspond exactement avec la métamorphose d'une vie somme toute malheureuse et inutile dans une vie heureuse. Écrire, c'est être heureux pour Proust. Et ça, je crois que c'est très important et je dirais presque que c'est extrêmement moderne, c'est peut-être même d'avant-garde en un sens, parce que depuis 20 ans, nous avons été habitués à une sorte de sentiment un peu dolosif, un peu malheureux, un peu tourmenté par un excès de responsabilité de l'écriture. Alors que pour Proust, écrire, c'est essentiellement être heureux, et c'est vouloir être heureux. Et alors la troisième leçon, c'est que cette écriture, toute écriture, est une sorte de retour aux profondeurs de l'être, c'est véritablement une anamnèse, comme on dit, et cette anamnèse, ce, se fait au fond par comparaison, c'est-à-dire par comparaison d'événements, de caractères, de notations, c'est-à-dire qu'au fond, pour Proust, écrire, c'est essentiellement dégager des essences et se convertir à un essentiel qui ne surgit que par comparaison.
Bonjour Pierre-Yves Leprince.
Bonjour.
Voilà, c'est là où vous devez dire bonjour. Vous avez suivi, vous, les leçons que Barthes infère de Marcel Proust, fini la frivolité à partir de 2014, quand vous avez publié donc votre premier roman, Les nouvelles enquêtes de Monsieur Proust.
C'était d'abord les enquêtes de Monsieur Proust et les nouvelles enquêtes m'ont été commandées par Gallimard. Je n'en suis pas revenu. Je suis né en 40,
commande.
Vous allez voir, je suis né en 40, j'ai écrit des romans dès l'âge de 5 ans. J'ai commencé à en envoyer des éditeurs vers 30 ans. Un a failli être publié, c'était en 68, on m'a expliqué après que les problèmes de 68 rendaient mon livre un petit peu moins urgent. J'en ai écrit d'autres, j'ai travaillé pendant des années à France Culture et j'y étais entré pour le centième anniversaire de la naissance.
Donc vous avez fait des émissions sur Proust.
Des émissions sur Proust, mais on a proposé d'autres ensuite. Puis j'étais également homme de théâtre, je faisais des décors, des costumes, et j'ai préféré cette vie-là. Et j'ai écrit encore d'autres livres avant qu'on publie, quand j'avais 74 ans, en 2014, mon premier livre qui était Les enquêtes de Monsieur Proust, pas oui. De Proust, les enquêtes d'un Monsieur Proust.
D'accord, mais alors est-ce que la frivolité s'est terminée justement à partir du moment...
Je ne suis pas frivole.
Bon, donc vous êtes proustien alors.
Donc je ne suis pas, c'est pas ça, mais vous me posez une question sur la frivolité. Je dirais que ce qui m'a intéressé dans ce que je viens d'entendre de Barthes, c'est la notion de bonheur de lire. Journée de lecture.
Et d'écrire aussi.
Je crois que le bonheur de lire ne peut se comprendre que d'abord, le bonheur d'écrire ne peut se comprendre d'abord que quand on a lu. C'était enfant qu'on apprend à lire, qu'on commence à avoir ses premières lectures, et qu'on se dit « pourquoi pas moi ?» Mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est le bonheur d'avoir lu quelque chose qui nous a fait plaisir, qui entraîne au désir d'écrire. Alors, quand on écrit, on est très malheureux par bien des points, surtout quand on se mêle d'écrire à propos d'un auteur comme Proust. Mais peu importe, il y a un bonheur sous-jacent. Et je suis très frappé par ce que dit Barthes, et je suis absolument d'accord. Il y a une ivresse. Alors, s'il y a une frivolité chez Proust, elle est de l'ordre de l'ivresse. La rencontre, les gens qui brillent. Mais il s'aperçoit rapidement que les gens brillent d'autant mieux qu'ils sont plus loin. Je crois que c'est Erasme qui disait les gens de lettres sont comme les tapisseries des Flandres, ils ne font effet que de loin. Et je pense que la vie, pour Marcel Proust, est comme les tapisseries des Flandres. Elle ne fait effet que de loin, pourvu qu'on se la rappelle, qu'on la recrée.
Oui. Alors, vous entretenez un compagnonnage avec Marcel Proust, qui est donc, comme vous venez de le dire, qui vient de loin. Comment a-t-il évolué ce compagnonnage? Comment le définiriez-vous?
J'ai d'abord lu, quand j'étais en classe de philo, on m'a dit « faut que vous lisiez Proust, c'est plus simple, dans le livre de poche, il y a un amour de Swann ». J'ai lu un amour de Swann sans en comprendre du tout l'intérêt. Et à 21 ans, j'ai eu l'occasion de recevoir en cadeau une intégrale de la recherche en 15 volumes, sur la vieille publication de la NRF. Et je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. J'ai commencé à lire longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait et j'ai éclaté de rire. La première phrase de Proust est tordante. Et elle est tordante, elle est en plus très significative de ce qu'il est. Quelqu'un qui sait que nous sommes complexes, que nous sommes contradictoires. Et c'est sur les contradictions qu'est fondée la recherche tout entière, ne serait-ce que celle du temps.
Alors, quelle est l'idée qui a présidé à vos enquêtes de Monsieur Proust? D'où êtes-vous parti exactement, Pierre-Yves Leprince?
Je suis parti d'un lit. J'avais écrit plein de livres, on me les avait renvoyés, je m'y intéressais pas, je suis scénographe, j'avais la chance qu'on me demande encore à 70 ans de concevoir des décors et souvent de les peindre puisque je suis peintre aussi, donc j'étais content. Et arrive un Zona, soigné trop tard, inguérissable. Je ne souffre pas dans la nuit, je fais mon travail, mais la nuit je souffre affreusement. Je me dis, je vais me mettre à écrire un livre, mais pour moi. Alors j'ai réfléchi, j'ai vraiment réfléchi à ma table, et je me suis dit, je vais passer du temps avec Marcel. Et je me suis dit que ce que je vais faire pour Marcel, ce qui m'intéresse le plus, c'est avant. C'est avant qu'il écrive la recherche, c'est quand il cherche la recherche. Je me suis dit, je vais faire la recherche, c'est une enquête, je vais donner un tour policier à tout ça, il y a un seul moment.
Pourquoi la recherche serait une enquête ?
À la recherche du temps perdu, mais c'est une enquête sur la vie, sur tout, sur la signification du monde autour de nous, sur ce qui nous émeut, sur ce qui nous indiffère, sur les personnes, sur nous-mêmes. Oui,
un peu comme chaque livre est une enquête.
À ce point-là ? Non, je ne pense pas. Et donc, je me suis dit, je vais être à Versailles avec lui lorsqu'il passe des mois après la mort de sa mère à préparer son changement d'appartement, qu'il a un hôtel qui lui permet d'entrer directement dans le parc et de penser à Saint-Simon et aux personnages qui sont passés là. Et je vais partir de là. Et puis j'ai eu besoin, on s'en aperçoit, c'est comme dans les romans policiers, ils sont deux, Tintin et le capitaine Haddock, il vaut mieux être deux. Je me suis dit, je vais le mettre en présence de quelqu'un, mais qui ? Et je me suis dit, je vais le mettre en présence de quelqu'un de très jeune, un très jeune homme, parce que la naïveté du jeune homme va me servir. Proust est en train de chercher sa voix, de chercher ce qu'il va écrire. Ça va me permettre un rapport juvénile entre eux. C'est un Proust juvénile qui m'intéressait, un Proust d'avant la recherche. Et il s'est trouvé que tout d'un coup, vous savez, c'est comme ça que ça se passe parfois quand on écrit. Les personnages se mettent à naître. Ce petit jeune homme s'est mis à exister. Et un certain Monsieur Proust aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, il est évident que tout ce que nous savons de Marcel Proust, son homosexualité, etc., il va se passer quelque chose entre eux. Et je n'avais pas d'intention. Et je me suis aperçu que le petit jeune homme, lui, il aime les femmes, il les désire follement, il est tout petit de taille, il est donc très malheureux, il se dit « je n'aurai jamais de grand amour ». Et il résiste très gentiment à Monsieur Proust qui n'insiste pas. Et l'amitié naît de là. Je crois que Proust, du reste, aimait mieux l'amitié que l'amour, et que s'il avait eu une relation sexuelle avec ce personnage, il ne se serait plus jamais revu.
Alors, ce personnage a une première mission, c'est d'ailleurs comme ça qu'il rencontre Marcel Proust, qui est de retrouver un carnet perdu par Proust. Un carnet, mais il comprend mal, parce qu'on lui transmet mal l'information, il comprend un cornet. C'est comme ça que commence votre livre.
Oui, alors là, je veux dire, c'est complètement fabriqué. Parce que, ayant commencé le livre, je me suis dit, il faudrait quand même que, si je veux écrire un livre autour de Proust, même s'il y a le mot monsieur devant Proust, il faut quand même qu'on retrouve un peu de son humour. Et j'ai réfléchi, j'ai inventé le personnage du portier, j'ai inventé un personnage de portier italien, parce que je passe une part de ma vie en Italie, donc j'en connais long, sur des portiers italiens qui vivent n'importe où, et je me suis dit, je vais lui faire un cuir, parce qu'un des passages les plus drôles de la recherche, c'est la page sur les cuirs du directeur du grand hôtel dans le temps trouvé, où un monsieur est accroupi et non pas assoupi dans le salon, mais on lui a donné la cravache de la Légion d'honneur et non pas la cravate, ce qui me fait, moi, personnellement, tordre, mais je me tords aussi aux plaisanteries d'Hergé, peut-être que en ça, je suis trop vieux, mais j'ai voulu commencer par ça. J'ai donc inventé ce cuir sur cornet et carnet, et qui est infiniment plus drôle dans la traduction italienne de ce livre, mais je vous en parlerai si ça vous intéresse.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Pierre-Yves Leprince, racontez-nous donc votre histoire italienne que vous nous avez annoncée.
Vous me posez la question de la confusion sur Corneille et Carnet. Elle me permettait de faire rire dès le début. C'est-à-dire qu'un petit jeune homme qui travaille chez un enquêteur est envoyé par le directeur de l'hôtel des réservoirs où habite le vrai Monsieur Proust. Et le faux Monsieur Proust a perdu un carnet. Or, la personne qui transmet l'information se trompe et comprend cornet, pense cornet acoustique, et on envoie le petit jeune homme chez Monsieur Proust pour lui dire recherchons votre cornet. Et évidemment, quand il est reçu par Monsieur Proust, qui lui demande ce qu'il vient faire là, il lui dit je viens vous aider à retrouver votre cornet. Proust se met à rire et on commence par un rire.
Proust rit beaucoup dans votre livre.
Oui, mais je n'ai pas inventé. Alors, c'est mon Monsieur Proust, donc on peut faire tous les reproches qu'on veut à mon Monsieur Proust. Mais j'ai toujours été, d'une très grande exactitude. J'ai cherché tout. J'ai commencé à écrire ce livre en 70, mais je ne l'ai publié qu'en 74. J'ai donc travaillé énormément. Et, Carnet, c'est pas d'une drôlerie folle. Et il se trouve qu'on désire traduire en italien ce tome, on le fait, je corresponds avec la traductrice en italien, parce que je connais l'italien, et elle me dit, je vois vraiment pas comment on va faire pour traduire. Corneille-Carnet, on n'a rien, où il y a peut-être quelque chose, parce qu'en italien, un carnet, ça se dit un taccuino, et il y a aussi en italien le mot dindon qui est tacchino. Alors je pourrais peut-être faire quelque chose, et on lit dans la traduction italienne quelque chose d'irrésistible. J'appris par le directeur qu'un certain monsieur Proust avait perdu son dindon et qu'il me fallait l'aider à le retrouver. Je me suis demandé ce que pouvait être un monsieur qui avait dans un hôtel un dindon de compagnie, mais j'allais frapper à la porte, etc. Et c'est vrai que dindon est tordant, voilà. Et que le rire, vous savez, qu'est-ce que c'est que la recherche? C'est comme toute œuvre d'art, un antidestin. Mais c'est un antidestin où on nous montre comment on peut y arriver. C'est une marche. C'est une marche avec un compagnon. Et on ne peut pas passer une longue vie, même une vie de seulement 52 ans, sans rire un peu. C'est impossible.
Mmh. Alors, dans vos nouvelles enquêtes de Monsieur Proust, votre narrateur Noël raconte que Proust avait envoyé à sa mère les plaisirs et les jours et que sa mère avait entamé avec Proust une correspondance. Et du coup, vous imaginez que pour Proust, cette correspondance avec la mère de Noël était très importante, parce que c'était une correspondance avec une femme qui était une couturière et que c'est une relation qu'il appréciait d'avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi?
J'ai fait ça parce que je crois que j'essayais, sans du tout penser que je serais jamais publié, hein, j'étais extrêmement surpris. Et quand Gallimard m'a téléphoné pour dire venez nous voir, on va vous prendre dans la blanche, j'étais assis, sinon je serais tombé. J'étais bouleversé, vraiment. Et donc, je l'ai écrit, ce livre, avec le maximum de rectitude morale possible. Et il y a quelque chose chez Proust, dans ses lettres, mais même dans la recherche, bien sûr, il y a un vrai souci de l'autre, il y a un véritable intérêt pour les « petites gens », entre guillemets, et il a beaucoup vécu avec certains d'entre eux, beaucoup de ces relations qu'on essaye d'analyser dans la fameuse citadelle dont on parlait tout à l'heure, des œuvres écrites autour de l'œuvre. On a beaucoup parlé de relations un peu homosexuelles, amoureuses, un peu troubles, etc. Mais il y a énormément de relations qui ne sont pas du tout. Il y a aussi les relations avec les femmes, ces relations avec Céleste Albaret qu'il considérait comme une jeune fille et qui venait à peine de se marier, qui était vraiment une jeune fille, une jeune ouvrière, une jeune paysanne. Et je me suis dit, ça serait intéressant de faire rêver mon lecteur, parce que mon lecteur, j'espère qu'il va lire la recherche. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il la lira jamais. Alors je me dis, il faut faire quelque chose, il faut le faire rêver. Qu'est-ce que peut-être cette correspondance entre une ouvrière et Marcel Proust, comme ça serait intéressant de la lire? Il faut donner envie.
Et puis il y avait aussi cette idée que pour Proust, c'était important d'être lu par le plus grand nombre. On peut se demander d'ailleurs si c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que Proust est lu dans toutes les couches de la société, selon vous, Pierre-Yves Le Prince?
Et je n'ai pas fait d'analyse, mais il y a eu des émissions à la télévision, à la radio, où on entendait, où on voyait des gens qu'on avait pris dans la rue et qui aimaient Proust et qui en parlaient. Et je suis allé faire une conférence il y a quelques mois à Combray, il y est Combray, et il y avait dans la salle, j'ai été professeur de lettres à Chartres pendant quelques années, il y avait dans la dans la salle certains de mes anciens élèves. J'ai des professeurs dans un lycée agricole. Il y avait certains de mes anciens élèves qui adoraient Proust, qui faisaient partie des amis de Proust.
Peut-être parce que vous leur en aviez parlé.
Je ne pense pas, parce que on ne contraint jamais. On ne peut qu'ouvrir des portes, c'est tout ce qu'on peut faire. Et la porte s'ouvre sur on ne sait pas quoi. Et mes deux livres étaient une tentation d'ouvrir une porte sur la lecture de La Recherche du Temps Perdu, je m'empresse de le dire.
Y aura-t-il de nouvelles enquêtes de M. Proust? Est-ce que c'est infini de faire comme ça, enquêter?
Non, parce que j'ai voulu...
L'auteur de La Recherche.
On pourrait continuer à l'infini. J'ai pensé que c'était plus intéressant de terminer sur la vérité, sur deux vérités. L'une est très bouleversante, c'est une rencontre de mon narrateur qui s'appelle Noël, donc, et qui est maintenant un adulte, avec Robert Proust, qui sort de chez Marcel Proust. Là, je ne prononce pas les prénoms, mais mon monsieur Proust est loin, je suis dans la réalité. Et Robert lui dit, ne montez pas, il est perdu, il ne veut pas qu'on le soigne, mais que voulez-vous qu'il écrive d'autre, après avoir écrit ce qu'il a écrit? Et je tenais essentiellement, jamais Robert Proust n'a dit ça, mais à le lui faire dire, parce que lui-même, lorsque son frère est mort, il s'est occupé de la publication de la dernière partie de son œuvre et des manuscrits, et il a entamé quelque chose d'insensé, qui était la publication de la correspondance générale de Marcel Proust, et il était l'homme au monde qui savait le mieux à quel point Proust avait écrit des milliers de lettres. J'admire infiniment cet homme, Robert Proust, et je voulais terminer le livre sur lui.
Merci beaucoup Pierre-Yves Le Prince pour cette peinture d'un Proust en détective. Je rappelle que vos deux premiers romans, Les Enquêtes de Monsieur Proust et Les Nouvelles Enquêtes de Monsieur Proust, sont disponibles chez Gallimard dans la collection Blanche. Et je signale aussi que depuis ces deux premiers romans, vous en avez publié un troisième qui s'appelle L'Odyssée de Rosario. Rien à voir avec Proust cette fois. Il est disponible également dans la collection Blanche. La semaine prochaine, c'est un autre monument de la littérature française qui nous occupera, puisque nous parlerons d'Alexandre Dumas père. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour à tous. Puisque c'est finalement Bertolt Brecht qui nous aura conduits dans la Révolution d'octobre, achevons avec lui ce choix de texte rouge avec un classique, La solution qui vient après la Révolution. Après l'insurrection du 17 juin, le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans la Staline Allée. Le peuple, y lisait-on, a par sa faute perdu la confiance du gouvernement, et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Autre texte humoristique et mordant de Brecht appelle à un communiste malade. Nous avons appris que tu es atteint de tuberculose. Nous te disons, ne vois pas là un coup du sort, mais une attaque des oppresseurs qui t'ont abandonné à la fin, mal vêtu sous un toit humide. Voilà comment on t'a rendu malade. Nous t'ordonnons d'engager aussitôt la lutte contre la maladie et contre l'oppression avec toute ta ruse, ta rigueur et ta ténacité, comme une part de notre lutte que nous devons mener depuis notre faiblesse dans la misère extrême, lutte où tout est permis qui mène à la victoire, puisque cette victoire est celle de l'humanité contre son rebut. Nous t'attendons dès que possible de nouveau à ton poste, camarade. Réponse du communiste malade à ses camarades. Camarades, par la faim, le mauvais logement, les vêtements trop minces, on m'a rendu malade et éloigné de vos rangs. J'ai aussitôt engagé la lutte pour mon rétablissement. À tous ceux qui me voient, j'explique le pourquoi de ma maladie. Je désigne expressément les coupables. Je lutte en même temps contre les caisses maladie qui veulent me gruger en contestant le moindre de mes droits. De mon lit, je lutte. Je me suis informé sur les obligations de l'hôpital, les passe-droits quotidiens aux dépens des malades de la classe opprimée. J'emploie tous les moyens qui m'aident à recouvrer ma santé. Ainsi, quoique atteint et blessé, je n'ai pas déserté vos rangs. Jusqu'à mon dernier souffle, je suis les vôtres. Je ne songe pas à lâcher pied. Je vous prie de compter encore sur moi. Et là, alors là, l'occasion est trop belle de faire entrer le docteur Jivago. Vous savez que le roman de Boris Pasternak à la 17e partie se termine en poésie, les vers de Youri Jivago. D'ailleurs, la seule évocation de ce roman, docteur Jivago, équivaut dans certains régimes autoritaires à un acte révolutionnaire, extrait de la nuit d'hiver. La neige volait inlassable, partout volait, la chandelle sur notre table brûlait, brûlait. Comme en été les éphémères, les flocons blancs à la fenêtre de lumière venaient volant. Il la décorait d'innombrables traits étoilés. La chandelle sur notre table brûlait, brûlait. Sur le plafond couraient des ombres de pieds de mains qui se croisaient dans la pénombre, tels nos destins.
Merci Jacques Bonnaf, et vous lisiez notamment des poèmes de Boris Pasternak.